Laurent Diret des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Quoi de plus banal qu'un chagrin d'amour dans la vie comme dans la littérature? La rupture amoureuse, voilà un sujet éternel. Et pourtant, il est des écrivains qui arrivent encore à vous entraîner au plus près des sentiments qu'un tel événement génère. Car dès que vous l'ouvrez, vous ne lâchez plus ce roman dont nous allons parler aujourd'hui. Il faut dire qu'il vous embarque à travers une langue simple et pure, à la fois légère et grave, pleine de vérité et de tendresse, dans une spirale infernale dont on se dit que nous pouvons tous la vivre un jour ou l'autre, peut-être même, qui sait, jusqu'au choc final que l'on sent arriver et qui pourtant restera longtemps dans notre mémoire. Il est sans doute là le talent de David Fuenquinos, raconter l'histoire de chacun de nous en nous faisant croire que c'est celle des autres, à moins que ce ne soit l'inverse. Deux sœurs de David Fuenquinos est paru chez Gallimard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour et merci pour cette belle présentation.
Est-ce que vous seriez pas un peu d'humeur chagrine en ce moment ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que parfois on peut écrire sur des choses difficiles, en l'occurrence là une rupture qui va très très loin, tout en étant soi-même heureux. Et parfois même c'est en connaissant le bonheur qu'on peut d'une certaine manière appréhender la perte potentielle de ce bonheur.
Ah oui,
et
d'accord.
Donc aller chercher finalement sur ce qui pourrait nous faire souffrir.
Oui, parce que ce roman il est quand même un peu plus mélancolique, un peu plus noir, peut-être même un peu plus tragique que d'habitude, non ?
Oui, oui, je l'ai vraiment composé comme une sorte de thriller noir où vraiment où Mathilde, mon héroïne, va se laisser dériver assez loin finalement, portée par la souffrance de cette rupture, et puis justement cette souffrance qui va la conduire à composer une nouvelle personnalité assez inquiétante.
Donc une tonalité légèrement différente, est-ce que ça veut dire une écriture différente aussi, David?
Oui, une écriture différente, même si, enfin, tous mes livres sont assez différents. C'est vrai que La Délicatesse, Charlotte, Le Mystère Henri Pic révèlent de tonalités différentes. Mmh. Là, j'aime bien explorer encore autre chose. Et vous avez raison, ça implique une écriture différente. Là, c'est un livre qui a été porté davantage par la pulsion, puisqu'il y a quelque chose d'assez pulsionnel et d'incontrôlable dans ce que vit ce personnage de Mathilde, avec un dénouement final qu'on peut pas raconter.
Non,
mais moi,
pas.
Je le sais d'entrée, je sais la destination.
Mais on sent donc, qu'on va effectivement vers quelque chose de grave.
Voilà, donc c'est porté, l'énergie est portée par cette impulsion assez rapide et tenace.
Alors ce personnage, il s'appelle donc Mathilde Pécheux, elle est prof de français dans un lycée, elle a les meilleures relations du monde avec ses élèves, avec son proviseur, monsieur Berthier, elle aime ses élèves et ses élèves l'adorent, c'est quelqu'un qui est pleinement épanouie en fait dans son travail, c'est une passionnée.
Oui, exactement, c'est vrai qu'elle est passionnée par l'enseignement, c'est une professeure vraiment impliquée. J'avais envie de raconter l'histoire d'un personnage, à un moment donné on va dire qu'elle est la bonté incarnée, il y a quelque chose chez elle qui d'une certaine manière, j'espère, provoque chez le lecteur l'idée qu'elle ne mérite pas tout ce qui lui arrive.
Complètement, on est en empathie avec elle.
Exactement.
Dès le début.
Et pour moi c'était très important de finalement, c'est la vie qui s'acharne un petit peu contre elle.
La vie est injuste.
Avec une succession avec une rupture amoureuse, avec des complications professionnelles, comme si finalement il y avait une sorte de fatalité qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Elle va essayer de reprendre justement son destin en main, c'est toute l'histoire du livre.
De reprendre le contrôle et de mettre fin à cette dérive qui lui est imposée. Et avec ses élèves, Mathilde, elle étudie L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. C'est un roman qui vous a beaucoup marqué, David Fuenquinos?
Oui, moi j'ai été très marqué par Flaubert. J'ai fait mon mémoire sur Flaubert, sur La Tentation de Saint-Antoine, pour être plus précis, quand j'étais à la Sorbonne. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée que quelqu'un qui finalement ne soit plus en capacité de comprendre la psychologie de ce qu'elle traverse, ses sentiments par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, et en même temps soit très précise dans l'analyse des sentiments des personnages de roman.
Oui, à un certain moment, d'ailleurs, elle dit qu'elle aimerait bien finalement être dans un livre, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe dans un livre que dans la vraie vie.
Exactement, elle voudrait se réfugier dans un roman parce qu'elle elle possède finalement tous les clés, mais elle a un côté très 19e siècle. Et c'est vrai que si Mathilde évoque davantage Stendhal, c'est quelqu'un qui, en tout cas, vit une réalité plus précise dans la compréhension des romans que dans sa propre vie.
Alors elle aimerait effectivement se réfugier dans les livres. C'est vraiment une grande lectrice, hein, ce personnage de Mathilde. Et pourtant, vous écrivez, David Fuenquinos, le vrai problème, c'était les livres. Mathilde en avait trop lu. on ne pouvait pas être heureux quand on avait trop lu, tous les malheurs venaient de la littérature.
Elle rend malheureuse la littérature.
Bah oui, elle rend malheureuse la littérature.
Alors c'est mon héroïne qui dit ça. Oui. Mais parfois l'excès de roman peut aggraver la mélancolie, une forme de peut-être de compréhension un peu accrue du monde, qui est, enfin en tout cas une lucidité qui est pas forcément le meilleur gage d'épanouissement. En tout cas, c'est quand elle exprime ça, c'est aussi une pique par rapport à sa sœur qui elle ne lit pas
et pas donc
nage dans un bonheur de culture qui agace profondément Mathilde. Alors évidemment, c'est pas moi, je ne peux pas penser ça. La littérature a changé ma vie à partir
elle
du moment
où
elle
vous a rendu plus malheureux.
Non, pas du tout. Pour moi, j'ai commencé à lire quand j'étais gravement malade à l'hôpital à l'âge de 16 ans. J'étais pas du tout issu d'un milieu littéraire. Les livres m'ont sauvé, m'ont apporté la beauté, le voyage, la densité et l'écriture aussi, bien sûr. Donc, au contraire, moi, tous mes bonheurs viennent de la littérature. Enfin, une grande partie de mes bonheurs.
Alors, la littérature et l'éducation sentimentale constituent l'un des fils rouges du livre, mais l'histoire principale, c'est donc l'histoire d'une rupture amoureuse et de ses conséquences, l'histoire d'un couple qui explose, celui que formaient Mathilde et Étienne. Et cette rupture, lorsqu'elle survient, elle arrive un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Mathilde ne s'y attendait, mais alors pas du tout, du tout, du tout.
Oui, voilà, ça s'est fait en quelques jours et c'est extrêmement violent, et d'autant plus violent pour elle, c'est comme une double peine. L'homme qu'elle aimait retourne avec sa précédente compagne. Elle a le sentiment d'avoir été comme ça, comme une parenthèse pendant 5 ans, une forme d'histoire comme une salle d'attente. Et il y a quelque chose d'extrêmement douloureux. Et elle devient totalement obsédée par les dernières conversations qu'elle a pu avoir avec son compagnon, puisqu'il parlait de mariage ou de faire des enfants. Il y a dans cette rupture non seulement une déflagration, mais comme une sorte de postérité assassinée, comme vraiment la matérialisation que cet avenir qu'elle voyait, qu'elle ressentait, qu'elle touchait presque, n'existera plus.
Et pourtant, au départ, elle a du mal à comprendre vraiment ce qui est en train de lui arriver. Parce qu'elle sent un malaise dans l'attitude d'Étienne, elle sent qu'il n'est pas bien, elle sent qu'il n'est pas tout à fait comme d'habitude, on sent qu'il hésite un peu à parler. Et il y a deux temps, finalement, dans la rupture. Il commence par lui dire « je vais quitter l'appartement » et il dit pas tout de suite « je vais te quitter ». Et ensuite, elle insiste, elle a envie de comprendre, et soudain, elle lâche un brutal « je te quitte, notre histoire est finie ». Il y a vraiment deux étapes.
En tout cas, il y a quelque chose qui est très difficile dans l'ordre de l'énonciation, y compris pour la personne qui décide de quitter l'autre. Mais ce qui me paraît absolument tragique, et on en parlera dans l'émission, c'est l'idée qu'on est face à une fatalité absolue. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations dans la vie où on a le sentiment de pouvoir, par ses actions, les modifier, ou même... Se battre contre une maladie, par exemple. Là, il y a quelque chose de l'ordre du fait établi et sa raison d'être n'existe plus et elle n'a aucun moyen finalement d'agir par rapport à ça. C'est une sentence, c'est une condamnation à mort de son passé, de son bonheur, et donc elle va tenter de se recomposer. Alors on lui dit de reconstruire sa vie, des choses comme ça un peu absurdes, mais on peut pas reconstruire une vie quand elle est à ce point-là abîmée, en tout cas dans un premier temps.
Bonjour Claire Marin.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de philosophie de classe préparatoire au lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise en Ile-de-France. Vous publiez le 27 mars prochain aux éditions de l'Observatoire un ouvrage intitulé Rupture. Alors le titre s'écrit avec un S entre parenthèses, donc la rupture, les ruptures, on va peut-être y revenir. C'est dans la collection La Relève dirigée par Adèle Van Rett. Un sujet qui concerne tous, la rupture, qui concerne chacun de nous à tous âges, comme le montre d'ailleurs le titre de votre introduction. Notre vie n'est faite que de rupture. Là aussi, c'est extrêmement violent comme titre.
Oui, ça peut être exagéré, mais en réalité, chacun d'entre nous pourrait faire la somme ou la liste des petites et des grandes ruptures de son existence, qui n'est pas affectée par la maladie, le deuil, la déception amoureuse.
Mais ça va même plus loin, parce que la naissance est aussi une rupture. Vous consacrez un chapitre à la naissance.
La naissance est une incroyable rupture. On aime la penser comme une continuité, comme une transmission, comme une continuation de l'existence d'un adulte dans celle de son enfant. En réalité, c'est d'une brutalité sans nom. Et c'est une remise en question très profonde pour les parents, pour les proches.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu explorer ce thème de la rupture, David von Kinos, à travers ce roman ?
J'avais envie de l'explorer d'une manière totale. C'est-à-dire en allant assez loin dans l'effroi et d'écrire une dévastation amoureuse. C'est-à-dire qu'évidemment il y a plusieurs degrés de rupture. Ce que je voulais décrire, c'était vraiment une souffrance qui pousse un personnage à changer de personnalité. C'est plutôt ça qui m'excitait. C'était le degré atomique de cette rupture.
Alors dévastation, disait à l'instant David Fuenkinos. Vous, Claire Marin, vous utilisez un autre mot mais qui est pas très très éloigné finalement. C'est le terme de déchirure.
Oui. Je voulais faire la distinction entre rupture et séparation. Dans la séparation, il y a l'idée qu'il y avait deux parties qui ont été ensemble et puis qui se divisent.
C'est la vie, quoi.
Voilà.
Alors qu'il un seul chemin qui ensuite devient deux.
Qu'en réalité, quand on vit avec quelqu'un, les corps se mélangent, les idées se confondent, il y a des échanges incessants et que une séparation est toujours une rupture parce que on a laissé de soi dans l'autre et il est encore en nous d'une manière ou d'une autre et que l'idée de séparation qu'on aime beaucoup dans nos sociétés où faut être flexible, souple, changer facilement de profession, de vie, de pays, ça me semble être en partie une illusion.
Oui, d'ailleurs, donc là aussi, c'est pas très optimiste finalement comme vision parce que à la limite. On a l'impression que quand on dit bah voilà, je me suis séparé de ma compagne ou de mon compagnon, bah d'une certaine façon, j'atténue quoi, j'utilise un euphémisme peut-être un petit peu pour moins souffrir.
Oui, peut-être, mais je pense que c'est pas seulement pessimiste, parce que si il y a ce sentiment de déchirure, c'est qu'il y a eu un partage et une union, voire une communion très forte entre des individus auparavant, qu'il y a eu quelque chose de fort, et que l'intensité de la rupture, elle tient aussi peut-être à la force de ce qu'on a pu éprouver auparavant.
Oui, il y a effectivement, David Fuenkinos, une sorte d'effet miroir de part et d'autre de la rupture, donc la souffrance. Parce que, précisément, on a aimé avec passion, et déjà dans le mot passion, il y a déjà pateo, hein, la racine latine qui signifie souffrance, justement.
Oui, mais c'est assez beau, finalement, de ne pas mélanger séparation et rupture, ce sont deux choses différentes, et dans ce que vous dites, l'idée dans une histoire, on se dilue l'un l'autre, et donc la rupture, mettre un terme à cette vie en commun, d'une certaine manière, et d'une brutalité inouïe. Dans mon livre, il y a une scène, par exemple, où elle se dit, finalement, mon présent est contaminé partout par mon passé. Et elle veut plus se promener dans les endroits où elle a été avec son compagnon dans Paris. Alors elle achète une grande carte de Paris et elle commence à raturer tous les endroits qui ont été contaminés par cette histoire passée. Et il lui reste finalement que des petits îlots comme des cellules dans Paris où elle peut se promener librement. Rupture, ça veut dire aussi rupture avec son passé, avec qui on était, avec la vie qu'on a vécue. Rupture sociale aussi, avec les amis, avec tout ce qui nous fait penser au passé.
Il y a quelque chose de terrible. Il y a une scène d'ailleurs dans le livre où il y a un ami qui vient la visiter.
Comme une sorte de service après-vente de la rupture. Voilà. Et il se dit, s'il vient me voir avec des chocolats, c'est qu'il pense que je suis très dépressive. Voilà, et effectivement, il vient avec des chocolats.
Voilà, la rupture est donc une déchirure, écrivez-vous, Claire Marin. Mais alors là, on a un peu l'impression depuis le début de cette émission que c'est une déchirure psychologique, une déchirure mentale, mais vous dites aussi que c'est une déchirure physique. La rupture, c'est une expérience corporelle.
C'est très difficile d'être privé du jour au lendemain d'un corps qui nous a accompagné, effleuré, côtoyé au quotidien, avec lequel on s'endort, avec lequel on partage la joie, l'émotion. C'est très difficile aussi tout d'un coup de ne plus avoir de voix. Et pour ça la radio nous sauve, je crois. Mais quand l'appartement devient un vide, l'absence de la voix, l'absence du dialogue, de l'adresse, des intonations avec tout ce que ça transmet, c'est très cruel.
Oui, et c'est pour ça effectivement que pour le personnage qui est le vôtre, David Fuenkinos, le personnage de Mathilde, rester dans l'appartement qui est le lieu de vie en commun du couple. Au départ, on se dit on va s'y faire, et puis en fait on se rend compte très vite que c'est absolument impossible.
Non, on peut pas, hein. C'est vraiment le début du livre, mais ce qui est très juste dans ce que vous venez de dire, c'est aussi l'idée que c'est absolument corporel, quoi. C'est organique, c'est physique, et c'est vrai que moi j'ai travaillé ce personnage justement qui perd des pieds dans la compréhension d'elle-même, dans cette psychologie comme ça de la souffrance, mais en tout cas les réactions les plus importantes sont celles de son corps. Donc ça c'est très juste puisque elle va aller sonner chez une psychiatre qui est une voisine à minuit, et puis progressivement il va avoir une distorsion de la réalité. C'est ça qui va.
On se demande d'ailleurs si elle est provoquée par les médicaments, si elle est provoquée par la souffrance.
Mais parfois, on est dans le comme ça, oui, dans l'obligation pour survivre. de brouiller un petit peu sa vision d'une certaine manière.
Oui, on se demande même d'ailleurs à un certain moment, en tout cas elle se demande si la psy est complètement blanc-bleu, quoi, si elle prendrait pas un petit peu son pied finalement à la voir souffrir.
Oui, ça c'est l'étape paranoïaque, voilà. Puisqu'elle va passer par de nombreuses étapes, finalement c'est une mutation totale et c'est une souffrance qui la propulse voilà dans des nouvelles sphères, y compris la paranoïa, l'agressivité, la violence, l'abattement. Et très rapidement, le livre finalement, puisque elle va aller vivre chez sa sœur, va se concentrer sur l'idée absolument horrible que elle va se retrouver face à la vie qu'elle aurait dû avoir, puisque sa sœur vient d'avoir un enfant.
Elle est
heureuse en couple. Et ce qui m'excitait, c'était non seulement souffrir, c'est extrêmement difficile, mais en plus, quand on a le bonheur des autres face à nous, ça devient très compliqué.
The good side of things, left you with both of the rings. My fingers danced and swayed in the breeze. The change in the wind took you down to your knees. I got the good side of you, sent it out into the blue. The people danced to the sound of your heart. The world sang along to it falling apart. But I sympathize and I recognize. And baby, I apologize that I got the good side of things. I got the good side of life, traveled the universe twice. So many thoughts I wanted to share, but I didn't call cause it wouldn't be fair. Then I got the good side of you, found arms to fall right into. I know how it looked, it wasn't the plan. And someday I hope that you'll understand. I sympathize and I recognize. And baby, I apologize that I got the good side of things.
The Good Side, Troy Sivan dans VMDN sur RFI avec le romancier David Fuenquinos qui publie deux sœurs chez Gallimard et la philosophe Claire Marin dont le livre Rupture sort le 27 mars aux éditions de l'Observatoire. Quelques mots David Fuenquinos sur la forme de ce roman, un roman assez court, hein, 173 pages, c'est pas la première fois avec vous, composé de 33 chapitres plus une épilogue, 33 chapitres plus un épilogue, 33 chapitres très courts, hein, de quelques pages au maximum, parfois deux ou trois paragraphes, parfois une phrase et demie, une ligne et demie, comme autant de petits instantanés comme ça de la vie. Cette forme s'est imposée comme ça au fil de l'écriture à vous ?
Pour moi, la forme est toujours très très importante dans mes romans. Quand j'avais écrit Charlotte, je l'avais écrit sur la peinture de Charlotte Salomon en allant à la ligne à chaque phrase, presque comme des vers. J'ai le sentiment que pour raconter une histoire, il faut trouver finalement cette tonalité ou cette impulsion. Là, vous avez raison, il y a des chapitres très courts comme des instantanés, puisqu'elle a le sentiment comme ça d'être traversée par des flashs. Il y a aussi une nécessité pour moi d'aller rapidement dans la lecture. C'est vrai que là, le livre, on m'en parle beaucoup parce que les gens le lisent assez vite.
Oui. Moi, j'ai lu dans l'avion, hein, donc c'est... c'était.
Bon, bah, c'est très bien. Mais c'était un long voyage ou c'était
non,
un. Ça dépend, quoi. C'était
pour aller
en Australie
après,
ou.
Pas de 5 heures, mais je suis allé très vite.
Mais ça, c'était pour moi, c'est très. L'écriture, ça doit être aussi bien pour le lecteur que pour l'écrivain. C'est quelque chose de totalement physique. Et j'avais besoin qu'on soit propulsé avec elle dans l'étau et dans l'effroi qui est le sien. Et donc, il fallait que ça soit assez rapide, quoi.
Et c'est pour ça que vous renvoyez, alors pas très souvent, mais de temps à autre, en note de bas de page. Il y a quelques aphorismes, hein, souvent, hein, qui se trouvent écrits en petits caractères en bas de la page, mais on se dit parfois qu'il aurait été très facile d'intégrer cette note de bas de page au texte. Quoi, est-ce que vous l'avez
oui, mais ça, j'ai une sorte de perversion comme ça. Je suis un peu un psychopathe de la note en bas de page.
Voilà.
Et j'aime bien, je trouve ça très sexy sur une page.
Ouais.
Et c'est assez physique. Et puis. Enfin, j'aime bien m'amuser avec l'idée que parfois des choses anodines sont en bas de page et parfois des choses essentielles.
Voilà.
Et donc c'est une façon aussi de j'écris de la fiction. Moi je parle de cette femme qui vit une tragédie sentimentale et puis qui va changer de personnalité, qui va aller vivre chez sa sœur, qui va aller très très loin dans son basculement. Donc c'est pas un livre personnel. Enfin c'est pas mon histoire. Enfin j'espère. Et c'est très important pour moi d'être quand même présent.
Mais
les notes en bas de page, ça me permet d'avoir un commentaire aussi sur l'histoire et que le lecteur ressente ma présence.
Mais alors justement, vous n'avez pas eu envie de dire je, David Fuenquinos, de vous mettre dans la peau, dans la tête, dans le corps de Mathilde ?
Bah, d'une certaine manière, quand on est écrivain, on est dans tous les personnages. Je me sens très très proche de Mathilde et c'est ce qui m'excitait parce que elle va aller très très loin dans l'histoire. Évidemment, on est dans la moralité, on est dans une forme de violence et pourtant, j'ai de l'empathie pour elle. Je fais tout pour la comprendre dans le livre et c'est toute la complexité et l'ambiguïté de ce roman. Après, moi, je suis vraiment un écrivain de fiction. J'ai parlé très peu de moi dans mes romans et tout va bien avec mon frère.
Voilà, donc tout va bien. Donc de ce vue-là, on est rassuré. Alors c'est donc un roman sur la rupture. Alors le personnage d'Étienne, hein, donc qui est celui qui va quitter Mathilde, Claire Marin, il aurait bien aimé finalement que les choses se passent un peu en douceur, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il marchait un petit peu sur des œufs au début. Il aurait peut-être voulu ce que vous appelez, Claire Marin, dans votre livre, une rupture propre. Et pourtant, vous expliquez que la rupture propre, elle est absolument impossible quand on s'aime.
Oui, précisément pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que on aimerait qu'on puisse faire comme une division mathématique parfaite, sans reste. En réalité, les histoires ont été tellement mêlées qu'il devient impossible de faire cette séparation. Et on a ce qu'on évoquait tout à l'heure, toute la contamination de la temporalité. C'est-à-dire non seulement il y a un avenir qui est désormais condamné, dans lequel on s'est projeté, donc on est privé de cet avenir commun, mais il y a aussi une lecture rétrospective des semaines précédentes, des années précédentes.
Oui, elle réécrit complètement le film, effectivement, David Fuenquinos, le personnage de Mathilde.
On devient aussi privé de ce qu'on a vécu, qui cesse d'une certaine manière d'être vrai.
Oui, c'est vraiment un assassinat du passé.
Exactement.
Et donc un assassinat de la personnalité qu'on était, puisqu'on l'a composé d'une certaine manière à deux, et c'est très difficile de se recomposer. Alors parfois on vous dit de tourner la page, c'est des expressions tellement... rien n'est plus facile que de tourner une page.
Oui, d'ailleurs il y a quelques expressions qui sont en italique dans le roman, David Fuenquinos, et ce sont d'ailleurs des expressions qu'on entend justement très très souvent, effectivement, dans la vie de tous les jours.
Oui, voilà, c'est assez... De toute façon... Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de mots réconfortants, il n'y a pas de gestes réconfortants. C'est tout à l'heure aussi Claire parlait des ruptures et de toutes les ruptures d'une certaine manière dans une vie. Et c'est vrai que la rupture, la définition principale de la rupture est quelque chose de l'ordre de la fatalité. Donc il n'y a pas de mots pour consoler, pour penser, pour aider. Il faut simplement être là, mais il n'y a rien à dire. Et finalement, on doit se débrouiller. Avec une situation dont on n'a pas du tout le mode d'emploi.
Oui, ça fait plusieurs fois que David Fuenquinos, Claire Marin, utilise ce mot de fatalité. C'est un élément clé, effectivement, dans la façon dont on ressent la rupture.
Oui, c'est ça. Au niveau de ce qu'on ressent, il y a quelque chose comme une puissance démesurée, incontrôlable, qui s'abat sur nous. Et le sentiment d'impuissance est extrêmement fort. Il y a cette impression d'être pris dans un engrenage au sein duquel, de toute façon, tout ce qu'on peut faire ne fera qu'accélérer presque le phénomène. C'est une des possessions très, très
étrange.
Oui,
c'est ça, impuissance. À un moment donné, dans
et puis Engrenage, effectivement, oui. C'est exactement le cheminement du roman.
Et Mathilde dit qu'elle se bat contre une armée de fantômes. Au fond, il n'y a pas d'ennemis. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que mon héroïne va chercher un bouc émissaire à sa souffrance, avec sa sœur notamment. Je pense que ce qui parfois, quand on est dans une situation de souffrance ou de ce qu'on estime être une injustice, affective ou autre, on cherche un coupable. Et on se crée parfois des coupables. Et il arrive que ce soit les personnes qui essaient de nous aider, qui sont aux premières loges de notre souffrance, qui finalement vont catalyser cette agressivité ou cette haine qu'on peut avoir.
Surtout si ces personnes en question sont heureuses au moment où vous, effectivement, vous
alors
êtes
exactement,
très malheureux.
Voilà, c'est voilà. Ça.
Et puis il y a aussi l'autre femme, si je veux dire, donc Iris, hein, donc qu'on évoquait brièvement tout à l'heure, qui est donc l'ancien amour d'Étienne, qui était parti très loin, à l'autre bout de la planète, et qui va revenir dans la vie d'Étienne, donc cet ancien amour. Et la présence d'une autre femme, c'est plus violent encore. Claire Marin, quand on se fait quitter pour une autre, plutôt que quand il s'agit d'une rupture sèche au bénéfice de personne.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a tout un processus inévitable de comparaison. On se demande ce qu'on a raté, pourquoi au bout de 5 ans, finalement, on vaut plus rien. Il y a tout ce processus de dévalorisation, de perte de l'estime de soi. On a parfois une forme d'effondrement de la personne qui se voit quitter. Et puis, inévitablement, l'image de la femme qu'on n'a pas su être ou celle qu'on aurait dû
donc,
être.
On culpabilise soi-même à ce moment-là. Mais on a
évidemment
un peu l'impression, David Fuentes.
Mais là, on parle
de
femme parce que c'est par rapport à mon roman, mais ça peut être totalement le contraire.
Oui, bien sûr.
Oui. Parce qu'il n'y a pas de spécificité féminine ou masculine dans la rupture.
Je ne crois pas.
Voilà, mais il fallait peut-être effectivement le préciser. On a un peu l'impression, David Fuentes, que Mathilde se complaît finalement dans son malheur. Elle a renoncé à être heureuse, mais finalement, à un certain moment, elle auto-nourrit. Finalement,
elle n'a pas le choix, et je pense qu'elle n'est pas en mesure de comprendre exactement ce qu'il faut faire pour aller mieux, parce qu'elle ne peut pas aller mieux. On voit bien dans la deuxième partie du livre qu'elle ne se complaît plus, qu'elle cherche à agir, qu'elle cherche à réagir, et sa façon de réagir, c'est une forme de violence contre elle-même, contre les autres, une forme de hargne, le sentiment qu'elle a été propulsée dans le camp des vaincus et qu'elle doit réagir pour réintégrer le camp des vainqueurs. Et donc c'est là que se joue aussi toute l'ambiguïté relationnelle qu'elle a avec sa sœur.
Voilà, et puis la tension et la tristesse vont être souvent trop fortes, elle va craquer à plusieurs reprises, je laisse le lecteur découvrir comment. Elle va aussi beaucoup, dans un premier temps, se rabattre sur son travail. Nous sommes David Fuentes, page 71 de votre roman.
Mathilde savait à présent une chose. Elle pourrait souffrir, sombrer, être ravagée par la vie. Il y aurait toujours un endroit où elle se sentirait à l'abri de la violence, comme protégée des agressions du destin. C'était ici, dans une classe, face à ses élèves. Sa classe de première littéraire le lui rendit bien. Elle perçut quelques sourires bienveillants, on lui demanda si elle allait mieux, et on lui fit promettre de ne plus refaire ce coup-là, car il y avait le bac à la fin de l'année. Mathéo avait exprimé son soulagement. Il n'y avait pas de doute. Elle était aimée. Pouvait-on remplacer une vie amoureuse par une vie professionnelle? Le départ d'Étienne pouvait-il être comblé par une trentaine d'adolescents? Il lui semblait que tous ces visages devant elle formaient comme un puzzle. En les rassemblant, elle y trouvait une cohérence humaine. Il était temps maintenant de reprendre l'éducation sentimentale. Au tout début du roman, quand Frédéric Moreau rencontre Madame Arnoux sur un bateau, il veut tout savoir d'elle. L'écrivain précise que cette quête semble bien plus importante que la possession de l'autre. Le savoir devenant supérieur à l'avoir. Mathilde fit le silence dans sa classe pour lire cet extrait. Le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Elle répéta plusieurs fois l'expression « curiosité douloureuse ». Puis elle laissa ces deux mots se propager dans l'atmosphère. Tout cela en silence. Chacun semblait les accueillir avec une forme de dévotion. On entendait ici ou là chuchoter cette expression de la curiosité douloureuse. La professeure expliqua brièvement qu'il y avait quelque chose de résolument moderne dans ces deux mots. Ce désir de tout suivre de la vie de l'autre s'étant énormément amplifié de nos jours. Bien sûr, elle faisait écho à ce qu'elle avait vécu récemment. Ce besoin irrépressible d'aller observer Iris. Si Frédéric ne savait alors rien de Madame Arnoux, les intentions étaient les mêmes, dans la valse incessante qui pousse à découvrir ce qu'on ne connaît pas encore et à vouloir savoir encore ce qu'on ne connaît plus. Nous ne sommes jamais rassasiés dans la connaissance de l'être aimé. Mathilde mit fin au silence qui devenait pesant. Il nous reste 30 minutes de cours. Je voudrais que chacun d'entre vous écrive un texte à propos de cette expression de curiosité douloureuse. Dites-moi ce qu'elle évoque pour vous. Soyez comme d'habitude, le plus libre possible.
Alors je vous pose la question à vous, David Funkinos. Imaginons que vous êtes un des élèves de Mathilde. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette expression « curiosité douloureuse » ?
Je trouvais ça intéressant de prendre ce passage comme ça de l'éducation sentimentale, parce que c'est ce que dit Mathilde, il fait vraiment écho à notre modernité. J'ai le sentiment que finalement... La curiosité, je pense que c'est par exemple la chose la plus importante à développer pour l'éducation, quand on a des enfants, quand on est écrivain, quand on est dans toutes les situations de la vie, la curiosité est ce qu'il y a de plus important, je trouve, d'être attentif aux autres. Toutes les sphères de la vie, sauf l'amour. Je pense que l'amour, c'est le terrain peut-être où il ne faut pas trop exercer cette curiosité, parce qu'elle peut devenir très vite douloureuse. Parce que qui parle d'amour et d'affection parle de fragilité, de ce qu'on peut savoir, comprendre de l'autre. J'ai le sentiment que pour être heureux en amour, il ne faut pas être trop curieux.
Claire Marin ?
Oui, peut-être il faut garder un peu, préserver un peu du secret des autres et de ses propres secrets. Mais cette expression de curiosité douloureuse, elle renvoie aussi beaucoup à la tentation, je crois, que peut éprouver quelqu'un qui est dans la situation de l'héroïne, justement de tout savoir. Et ça, dans cet engrenage qu'on évoquait, on voit comment un processus d'autodestruction aussi peut vite se mettre en place.
Oui, parce qu'on va épier, on va observer ce que fait l'autre, hein, qu'il s'agisse de son ex ou de sa rivale. On sait qu'on va souffrir à force de découvrir petit à petit des détails. Et pourtant, on peut pas s'empêcher, quoi. Il y a une forme de masochisme, finalement, dans cette curiosité douloureuse, David Funkinos.
De toute façon, aimer implique une forme de masochisme, puisqu'on ne maîtrise plus les choses. Le véritable amour, c'est en tout cas une perte de possession de son autonomie, de sa capacité à pouvoir, être heureux seul. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus difficile par moment.
Oui, mais là, on est dans un amour 2.0, quoi. On est dans un amour du temps des réseaux sociaux, du temps des profils Facebook, du temps des photos d'Instagram, etc.
Même si j'ai une héroïne plus 19e siècle contemporaine,
oui,
mais c'est vrai qu'elle essaye de... Ce qui est terrible, c'est que maintenant, on peut avoir accès, on peut interpréter des choses, on peut aller voir. Il est évident que quand on parle de... Voilà, avec l'ère de rupture ou de séparation, il y a une grande mutation. Les choses ne sont plus du tout pareilles actuellement. Ne serait-ce que de pouvoir avoir, à un moment donné, une photo ou une information de la vie de l'homme en ce qui concerne mon héroïne Mathilde, qu'elle aimait avec cette autre femme, c'est à se taper la tête contre les murs quand on est encore dans ce désarroi.
Il y a un avant et un après réseaux sociaux aussi dans la rupture amoureuse, Claire Marin ?
Oui, je pense que ça a changé beaucoup la donne et que tous ces éléments à travers lesquels on se fait souffrir soi-même sont devenus très nombreux aujourd'hui, que c'est une douleur de l'amour aujourd'hui, d'avoir aussi le bonheur de l'autre exposé, démultiplié.
Et puis, au-delà des réseaux sociaux, le téléphone portable, simplement, est déjà compliqué. Ouais. Puisque finalement, on est dans...
L'exégèse des SMS.
Dans le livre, elle analyse chaque mot que peut envoyer, mais c'est vrai qu'on, dans ces cas comme ça, de situations un peu explosives, quand on est en phase de rupture, on pèse nos mots, on les analyse. Mais c'est surtout l'idée que... Mathilde en fait attend désespérément un message au début du livre, et l'idée que on soit tous reliés les uns les autres avec les téléphones portables, ça implique que on est en permanence dans la possibilité d'avoir une manifestation de l'autre. Donc ça implique que le silence peut être considéré, ou en tout cas un temps où on n'écrit pas un message, où on ne reçoit pas un message, peut être comme, considéré comme une forme de rejet. C'est la première époque où finalement le silence est devenu une forme de rejet.
Oui, ce qui nous amène aussi à la question du temps, hein, finalement, Claire Marin. C'est-à-dire ne pas avoir de nouvelles aujourd'hui rapidement, ça veut dire qu'il y a des raisons de s'inquiéter, et ça veut dire que le temps passe aussi beaucoup plus vite, et donc la rupture est a fortiori douloureuse.
Alors c'est un peu ambivalent, parce qu'il y a effectivement une accélération des communications, et aussi du coup un aspect un peu frénétique, irrationnel. Enfin, peut-être que les choses s'engrènent d'autant plus qu'on va répondre comme ça spontanément. On va pas forcément prendre le temps de répondre comme si on écrivait une belle lettre de rupture, des choses de ce type. Mais je crois que ce qui ne s'accélère pas, ce qui ne change pas, c'est la lenteur du travail de deuil qu'on fait lorsque on subit une séparation. Ça, je pense pas que ça aille plus vite. Et peut-être même qu'on est devenu tellement impatient que cette lenteur nous paraît absolument insupportable.
Quelques notes du deuxième mouvement du Quatuor à cordes numéro 14 de Franz Schubert, La jeune fille et la mort, par le Quatuor Juillard, un morceau que deux de vos personnages, David Fuenquinos, vont écouter lors d'un concert, en l'occurrence Mathilde et son beau-frère qui s'appelle Frédéric. Tiens donc, Frédéric, comme le personnage de l'éducation sentimentale, hein, c'est pas totalement
hasard. Total.
Oui, évidemment, je vous crois tout de suite. Frédéric est donc la compagne d'Agathe, autrement dit donc de la sœur de Mathilde, et ils vont donc accueillir Mathilde chez eux afin qu'elle soigne sa dépression, qu'elle aille mieux. On arrive là à la seconde partie du roman. On sent petit à petit que les relations entre les deux sœurs évoluent. Deux sœurs, c'est le titre, hein, d'ailleurs du roman que vous publiez, je le rappelle, aux éditions Gallimard. Deux sœurs très proches en âge, elles ont à peine un an d'écart. Cette faible différence d'âge, ça les rapproche ou ça les éloigne?
Ça les rapproche dans un premier temps. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment une même éducation, un même socle, des mêmes racines peuvent finalement provoquer deux destins différents. C'était comme si l'une avait une aptitude au bonheur et l'autre au malheur. Je joue beaucoup sur cette symbolique-là. Et elles se réunissent à un moment donné où finalement Mathilde, dans le désespoir, ne peut être aidée que par sa sœur, puisqu'elle rejette tout le monde, et donc elle va être accueillie chez elle. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, elle va se retrouver face à la vie qu'elle aurait dû avoir, puisque elle allait avoir un enfant, elle allait se marier avec Étienne, l'homme qui l'a quittée, et elle se retrouve avec sa sœur, le mari de sa sœur, leur bonheur et leur petite fille. Et donc elle va être vraiment comme si elle allait au cinéma et elle voit la vie qu'elle aurait dû avoir. Et il y a quelque chose d'extrêmement douloureux, ça provoque chez elle quelque chose de douloureux et d'effroyable.
Alors deux sœurs qui sont aussi marquées, et ça on l'apprend très tôt finalement dans le livre, par le deuil de leurs parents, hein, le père et la mère sont morts à quelques mois d'intervalle. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'introduire cette notion de deuil dans votre livre, un peu comme si la rupture et la dépression qui s'ensuit ne suffisaient pas ce pauvre personnage de Mathilde?
Oui, pour moi c'était extrêmement symbolique. C'est comme si cette traversée comme ça de la souffrance, on pouvait y trouver comme un écho ou un signe avant-coureur dans l'enfance. Comme si finalement il y avait une prédestination à cette souffrance-là. Au-delà de la rupture, je parle simplement dans un destin de vie. Pourquoi un destin assez merveilleux, puisque Mathilde est quelqu'un d'aimé, une bonne professeure, heureuse en amour. Pourquoi un destin, finalement, en quelques jours, s'effrite? Il y a quelque chose de l'ordre, tout à l'heure, on parlait de la fatalité, ou en tout cas d'une forme d'injustice. J'ai essayé d'une manière un peu, pas mystique, mais en tout cas, comme si on pouvait aller chercher dans le passé des signes avant-coureurs d'une tragédie à venir. Et donc, ce fait-là, c'est-à-dire que c'est elle, Mathilde, qui découvre sa mère en pleurs le jour où ils apprennent l'accident de leur père. Et Mathilde, pendant quelques minutes, quelques heures, elle va connaître le drame pendant que sa sœur dorme. Et donc, il y a quelque chose du symbole, comme si elle était en première ligne des drames à venir.
Voilà, en première ligne d'un deuil, en l'occurrence, c'est le deuil, Claire Marin, c'est aussi une forme de rupture. Il y a aussi un chapitre que vous consacrez au deuil dans votre livre. Ça, c'est aussi une rupture qui peut être très brutale, qui parfois peut au contraire être prévisible, hein, d'une certaine façon. Il y a un réel rapprochement que l'on peut faire entre la rupture amoureuse et le deuil?
En fait, cette idée d'ouvrage, elle m'a été suggérée effectivement lors de rencontres où des lecteurs me disaient « Mais ce que vous écrivez sur la maladie, ce que vous thématisez sur le deuil, on peut l'éprouver aussi dans une rupture amoureuse. » Donc le parallèle, c'est pas moi qui l'ai fait dans un premier temps, mais il y a effectivement sans doute des similitudes.
D'ailleurs, on dit toujours, il t'a quitté, fais ton deuil de cette relation.
C'est ça. Ah ouais. De la même manière qu'on demande au patient d'être rapide dans sa convalescence, on demande à la personne quittée de passer à autre chose, de tourner la page, etc. Et une forme d'impatience sociale face au moment nécessaire où on est plongé dans la souffrance. Et on parlait tout à l'heure de consolation. Je crois qu'il y a des moments où la consolation est presque une offense, en fait, où elle est tout à fait malvenue. Il faut au contraire s'indigner avec celui qui souffre, dire « mais oui, c'est un salaud, comment il a pu te faire ça ?» etc. Je pense qu'à certains moments, la colère partagée fait plus de bien que la bienveillance ou l'apitoiement ou la compassion.
Alors, petit détail important, David Fonkinos, hein, quand le père des deux sœurs meurt, on apprend que sa femme et lui venaient de se disputer pour une broutille, ce qui renforce encore l'amertume de la mère qui survit. Et un peu plus loin, on apprend que si Étienne a finalement accepté de revoir Iris, l'amour de sa vie, quand elle revient d'Australie, c'est parce qu'il venait de se disputer, lui aussi, avec Mathilde, et là aussi pour une broutille. On a l'impression, finalement, que deux petites disputes du quotidien, deux petites discussions très, très banales, pas graves du tout, vont avoir une influence capitale sur le destin des personnages.
Oui, je vois que vous avez fait une lecture attentive parce que c'était très discret. Pour moi, c'était un écho. L'idée, finalement, qu'il y a quelque chose d'assez explosif, puisqu'on est, on est dans le passionnel, on est dans les histoires d'affect et de cœur. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut très vite basculer dans le ratage ou dans des faits qui vont changer l'histoire d'une certaine manière, parfois à cause d'un rien ou d'une respiration. Et pour revenir sur le parallèle avec le deuil, ça me paraît tout à fait juste, puisque il me semble vraiment que la rupture, c'est la mort d'un amour. Donc on peut imaginer tout simplement que l'amour est une entité. Évidemment, il n'y a pas une incarnation. Mais c'est pareil, il y a une entité, il y a du vécu, il y a une histoire, et cette histoire est morte. et donc d'une certaine manière on doit composer avec le un type de chagrin qui est pas si éloigné, puisque on enterre son passé, on enterre son histoire.
Alors il y a encore une fois dans ce roman David Foenkinos énormément de références à la vie quotidienne, à la vie de couple. On évoquait les disputes à l'instant, mais la rupture en elle-même, c'est finalement quelque chose que nous avons tous vécu, souvent à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'à cause de notre naissance, hein, déjà, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Tamara. Il y a un côté banal, finalement, dans tout ce qui arrive à vos personnages, et le mot banalité revient à plusieurs reprises, d'ailleurs, sous votre plume, je sais pas si c'est un hasard ou non. Vous écrivez, par exemple, tous les couples, dans une excitation narrative, arrivent à se remémorer les détails de leur première fois. Ils estiment souvent que tout dans leur rencontre a été fou ou incroyable, alors que la plupart du temps, tout n'a été qu'éclat de la banalité. Banalité de la rencontre, banalité de la rupture, banalité de la vie. Est-ce que vous êtes un écrivain de la banalité, David Foenkinos?
Je ne sais pas. Moi, ce qui me paraît vrai et ce qui me paraît excitant, c'est l'idée que dans un amour, tout ce qui est ordinaire paraît extraordinaire aux yeux des amoureux. Et donc, moi, je cherche en permanence à traquer justement, comment dire, les détails. Mais j'ai le sentiment que chaque histoire d'amour est une création unique. Et totalitaire, et que même s'il y a des choses qui peuvent revenir, il y a quand même une façon de, comment dire, de d'agir qui est très personnelle. Par exemple, il y a une scène où Étienne, après avoir quitté Mathilde, veut la revoir. Et parce qu'il doit parler des détails pratiques concernant l'appartement. Et elle se dit, mais comment il va être habillé? C'est très important de se dire que je dois être sur un pied égalitaire. Donc elle dispose trois tenues sur son lit. Et ça, je trouve pas ça banal comme attitude. Et elle va essayer de guetter, de voir comment il arrive. Et en fonction de comment il est habillé, elle va s'habiller, parce que elle veut pas être trop apprêtée si lui, il arrive en jean, quoi. Et donc, finalement, chaque personnage, dans une histoire, crée sa propre mythologie.
Dans votre
accueil. Mais en tout cas, là, pour moi, le mot banal, je l'aime pas. Mais c'est toujours très fort pour un écrivain d'avoir des lecteurs qui vous disent qu'ils se retrouvent dans l'histoire.
Dans votre actualité, David Foenkinos, il y a aussi la sortie ce mercredi d'un film adapté d'un de vos romans, Le Mystère Henri Pic, que vous étiez d'ailleurs venu nous présenter dans cette émission. Le film est signé du réalisateur Julien Besançon et met en scène Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Enquête donc sur un écrivain improbable, bande-annonce.
Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pic, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman?
Vous êtes en train de vous moquer de mon mari.
Non, mais vous l'imaginez, le pizzaïolo breton qui pond un bouquin de cette envergure?
Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza?
J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver.
Dans quelle mesure avez-vous été associé à l'adaptation, David Foenkinos?
Là, j'ai pas fait grand chose, et c'est pour ça que le film est formidable.
Ah bon?
Non, je suis très heureux du film, vraiment.
Oui. C'est pas une trahison, toujours, d'adapter un roman à l'écran?
Alors, le film est à la fois extrêmement personnel dans le ton. Il est très, par rapport au livre, c'est très très proche. C'est très ludique. C'est une comédie. Le duo Camille Cotin-Lucchini fonctionne à merveille. Il y a beaucoup de charme. Et en même temps, le réalisateur Rémy Besançon a centré l'histoire sur l'enquête littéraire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre qui sont pas dans le film. Et c'est tout à fait normal. Une adaptation, c'est pas un copier-coller. Et vraiment, moi, je suis vraiment très, très heureux de cette adaptation.
Voilà, un film à voir avec ou sans carte d'abonnement au cinéma, puisqu'au passage, David Foenkinos, dans l'une des notes de bas de page, hein, vous, Mathilde, puisque c'est pas vous, mais Mathilde démonte un peu le système des cartes d'abonnement
à deux.
Au cinéma, les cartes d'abonnement à deux, c'est terrible. Toute offre commerciale aguichante ne reposait que sur le potentiel désespoir du client. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, parce que finalement, on achète une carte, on va beaucoup à deux, et puis après, quand on est quitté, on va plus au cinéma et on a pas du tout l'énergie de résilier son abonnement.
Voilà,
donc finalement,
on
se fait toujours avoir quand on est heureux, quoi.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. David Foenkinos, De Sort, votre nouveau roman aux éditions Gallimard. Merci à vous, Claire Marin.
Merci.
Rupture, avec un S entre parenthèses. Le livre sort le 27 mars prochain aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain pour parler cinéma à nouveau avec un autre film qui sort mercredi, Exfiltré, un film d'Emmanuel Hamon avec Swan Arlo et Finnegan Oldfield qui nous emmène au plus près de Daesh en Syrie. Dans un instant, le journal. À demain, vous m'en direz des nouvelles.